Autrement, une émission que vous connaissez bien sûr, auditeurs et auditrices de Fréquence CIE 97.9. Je rappelle qu'autrement, ben oui, c'est autrement, vivre autrement, faire autrement, trouver des solutions pour autre chose. Alors, il est vrai que jusqu'à présent, on a beaucoup voyagé dans Autrement autour de notre territoire. On est resté, disons, sur le Grand Ouest. Et on va aller un peu plus loin, là, juste on s'envole et on va du côté de Paris. On va rejoindre Alex Poulenges qui est avec nous, qui est notre invité. Alex, bonjour.
Bonjour, Christian.
Alors, Alex, consommer. C'est vrai que nous sommes les uns comme les autres consommateurs et parfois, eh bien, on aimerait trouver d'autres approches, entre autres pour le côté élémentaire, alimentaire. Et je sais que pour vous et autour de vous et avec d'autres gens, vous avez été vers une création, faire autrement, consommer autrement et devenir peut-être un peu plus acteur de sa consommation. C'est bien ça, Alex ?
Exactement. C'est un projet de supermarché collaboratif qui a été développé dans le 13e arrondissement et qui s'appelle Les Grains de Sel.
Mmh. Alors, Les Grains de Sel, il y a combien d'années ? On va essayer de prendre un petit peu la chose du début jusqu'à la fin, de A à Z. C'est venu comment ? Est-ce que c'est parce qu'on avait marre d'aller à la grande distrib ou je ne sais où ? Et puis, on avait marre de se trouver un peu seul à pousser son caddie. On a voulu trouver autre chose, peut-être plus de relationnel. Il y a combien de temps que ça a démarré, ça ?
Grain de sel. Alors, je ne suis pas le spécialiste, je ne suis pas le fondateur de cette aventure. Donc j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises et pas trop inexact. Mais c'est une aventure qui a commencé, je pense, il y a 4 années à peu près. À l'initiative, il y a un ancien de supermarché classique qui a eu un ras-le-bol de ce qu'il pouvait lui vivre en tant que directeur général de ce supermarché. Je crois qu'il avait une franchise. Ils ont mis 2 ans avec un collaborateur à lui pour mettre en place le projet. Ils se sont inspirés d'une expérience qui existe déjà. Alors, il y a bien plus longtemps aux États-Unis, mais qui existe dans le nord de Paris, qui s'appelle la Louve, où je crois qu'ils sont à peu près 5 ou 6 000 maintenant. Et il a donc mis en place ce système de supermarché collaboratif qui fonctionne sur un principe simple, c'est que la globalité des clients sont sociétaires. Qui engage les sociétaires, donc les clients, à travailler pour le supermarché 3 heures par mois, ce qui permet d'avoir peu de salariés en fixe, ou en tout cas ceux qui y sont bien payés, payés correctement, et l'ensemble de la tenue du supermarché est tenu par l'ensemble des sociétaires. Mmh. Et ça a des incidences dans notre quotidien de relations au supermarché, sur plein de points. Mmh. Je vais détailler certains points, mais on a une relation au caissier ou à la caissière qui est différente, puisque des fois c'est nous qui sommes, des fois ce sont d'autres sociétaires. Donc déjà, on a une relation à tous les gens qui travaillent dans le supermarché, on s'y voit, puisque c'est aussi notre rôle à certains moments d'aller ranger, d'aller nettoyer, d'aller à la caisse, de se tromper. Donc les files d'attente, tout le monde aide un peu tout le monde si on ne trouve pas certains produits dans la liste des caisses. Il y a comme ça une relation. C'est intéressant d'inverser les rôles et de vivre les choses aussi de l'autre côté. Mmh. Et après, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est sur la sélection des produits. Qu'est-ce qu'on y mange ? Et c'était quelque chose que j'avais pas forcément perçu au début. Je me projetais plus dans un supermarché bio, quelque chose où tout aurait été sourcé dès le départ, sur que des produits bio, naturels, des sélections de ce type-là. Et je me suis très vite rendu compte, dès le départ du projet, qu'en fait, en parlant avec le fondateur, c'était une volonté de sa part de ne pas faire de présélection. On a, au départ, au lancement du supermarché, il y avait l'ensemble des produits usuels qu'on trouve en supermarché, même des produits type, je prends un cas parmi tant d'autres, mais par exemple du Nutella, il y avait du Nutella. Et il nous a expliqué, il y avait une réunion de départ là-dessus, beaucoup de gens qui posaient des questions sur les produits, qu'est-ce que ça allait être et tout. Ils étaient très étonnés de trouver du Nutella. Et lui nous a expliqué quelque chose de très très simple, mais très très bien, c'est que on allait proposer aux gens, et c'est les gens qui allaient sélectionner. En fait, c'est plus par la sélection, en fait. Donc c'était sur les pâtes à tartiner, il y avait, on va dire, 4 ou 5 pâtes à tartiner différentes. Des italiennes, des chocolats, des autres, et le Nutella. Et on allait voir progressivement, en proposant aux gens des alternatives à ces produits-là, si effectivement dans le temps, les gens allaient pouvoir s'orienter sur les alternatives parce qu'elles étaient peut-être meilleures en goût, meilleures sur d'autres choses, et puis au niveau du prix, ça pouvait peut-être se retrouver. Et progressivement, on s'est rendu compte que certains produits disparaissaient parce qu'en fait, au moment où ils doivent faire les calculs de vente, ils se sont rendus compte que ce produit-là se vendait pas. Et il est naturellement sorti du circuit sans que la personne de base qui a créé le projet dise, moi je vous impose de manger tel ou tel produit bio. Voilà, c'est la sélection des gens, c'est au fur et à mesure. Et comme ça, sur l'ensemble des produits, alors je sais pas s'ils le font sur tous, mais une grande partie, c'est surtout du choix. Et à partir du choix, eh ben, les gens font leur sélection. Et la sélection se fait naturellement, progressivement. Et c'est vrai que maintenant, on a quand même une sélection au bout de 4 ans qui est quand même très très de bonne qualité. Et puis après, bah, tous les produits frais sont par contre en circuit court. Et là, on a beaucoup de produits qui viennent de Picardie, du nord de Paris, ou sinon c'est des produits bio qui viennent un peu partout, mais qui sont quand même relativement bien sourcés. Voilà. Dans les grandes lignes. Après, là aussi, je suis peut-être pas totalement exact, puisque j'ai pas tous les chiffres en tête, mais sur la mécanique de marge, là aussi, il a voulu faire quelque chose qui était intéressant. C'était de se dire que dans un supermarché classique, la mécanique est de se dire que sur des produits d'appel, type Coca-Cola, Nutella, des sortes de grands produits phares comme ça, les supermarchés seraient presque prêts à les vendre à perte, même s'ils n'ont pas le droit, mais ils le vendent au plus bas qu'ils peuvent. Donc ça fait des marges à rien sur ce genre de produit. Et à la fois, le pauvre apiculteur Picard qui fait son miel, il va avoir une marge sur lui à 50 ou 60%. Et cette mécanique-là, lui, il a voulu la remettre en question en nivelant les marges, ce qui fait qu'on a des marges aux alentours entre 30 et 40%. Alors, de ce que j'en pense, après, il faudra revérifier sur les grains de sel. Mais de ce que je vois sur les étiquettes, toutes les marges sont lissées de telle façon à ce que tous les produits permettent d'émerger et on peut donner reniveler tout ça. Ça fait un panier moyen qui est un peu moins cher pour les clients et ça fait une répartition des marges un peu plus correcte. En tout cas, ça marche plutôt bien et surtout toutes les marges sont écrites sur les étiquettes. Ça aussi, j'avais jamais vu ça avant, ce qui permet d'avoir une bonne transparence sur la mécanique et sur ce qu'on achète et ce que ça rapporte et voilà.
Ah, est-ce que ça veut dire qu'à la base, il y a quand même une grosse équipe? Parce que bon, ça m'a l'air d'être quand même un travail pointu, pas si simple que ça doit demander du temps. Donc est-ce que c'est une grosse équipe ou une toute petite équipe? Et en fin de compte, c'est vous, consommateurs, clients, qui, comme on a pu l'entendre tout à l'heure par vos propos, qui font que, oui, bien tout cela s'harmonise bien et tout le monde s'y retrouve. Mais s'il y a une équipe importante au départ.
Alors, au départ, je pense que l'équipe est assez restreinte. C'est donc cette personne dont je parlais tout à l'heure et un collaborateur à lui qui vient aussi de la grande distribution. Et à tous les deux, ils ont porté le projet. Je pense qu'ils ont dû se faire accompagner par quelques personnes. Ils se sont investis à 100%. C'est vraiment des gens qui ont tout donné pour leur projet pendant presque 2 ans. Pour le monter, on va. Alors, ils se sont fait aider après. Comme c'est un projet qui dynamise quand même, hein. Enfin, en tout cas pour notre part et pour les gens que je vois autour et qui donnent quand même très envie d'y participer et d'aider. Ils ont dû se faire accompagner progressivement par pas mal de gens autour d'eux, mais la municipalité du 13e arrondissement les a aidés pour trouver le lieu et leur faciliter l'accès à un lieu qui est maintenant le supermarché qu'on a, qui est quand même un joli volume, hein. C'est pas une petite supérette, hein. On est presque 1500 sociétaires maintenant. Donc ça, dans l'ordre des choses, c'est vrai que il y a 2 points. Le premier point, c'est comment monter le projet. Quand même un projet pas simple à structurer. Et voilà. Mais ils se sont fait aider aussi par les gens de la Louve, qui, eux, avaient l'expérience. Donc, ce supermarché existe dans le nord de Paris, où ils sont presque 5000 maintenant. Et je crois qu'ils en ouvrent un deuxième, d'ailleurs. Et je pense qu'ils se sont fait aider. Ils ont dû récupérer des modèles, justement, pour ces calculs de marge. C'est important aussi. Enfin, il y a toute une logistique aussi pour les plannings de chacun, pour que tout tourne. C'est ouvert 7 jours sur 7. Avec des amplitudes horaires qui sont assez larges. Mmh. Mais c'est vrai que quand on a potentiellement 1500 personnes à dispatcher sur un planning, bah, tout ça, ça marche. Ça fonctionne. Il y a tout le temps du monde. Les personnes qui veulent déplacer leurs heures de travail peuvent le faire très facilement. On n'est pas dans quelque chose qui est en flux tendu. Voilà. De ce que j'en vois de l'extérieur, encore une fois, je ne participe pas vraiment au quotidien administratif de cette aventure. Je raconte un peu de l'extérieur, mais voilà. En tout cas, de ma vision, mécaniquement, ça tourne. Alors après, on est en recherche de sociétaires encore, hein, pour que ça puisse prendre l'ampleur. De ce que j'en comprends, il y a un temps d'eux à cette aventure-là. Il y a, dans un premier temps, ce supermarché qui fonctionne très très bien et qui, en plus de ce que je dis là, a d'autres vertus. Faire venir par exemple des agriculteurs ou des producteurs sur place pour qu'ils puissent présenter leurs produits, mais pas que. C'est parler de leur métier d'agriculteur ou d'apiculteur ou viticulteur, pouvoir échanger sur leur vie, sur leurs conditions de travail, sur leur savoir-faire. Il y a quand même une dimension sociale et d'échange entre les gens qui est très importante. Au-delà de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le temps d'eux. Le temps d'eux, de ce que j'en comprends à l'heure actuelle, c'était de générer suffisamment. Déjà là, ça permet, en 4 ans, ça a permis de garder les choses. C'est-à-dire que le supermarché est encore là, il fonctionne, il est pérenne, il permet de salarier quelques personnes. Alors, je sais pas le nombre exact, mais il y a des salariés quand même qui sont là à plein temps pour pouvoir gérer vraiment du quotidien. Et là, c'est pas juste des interventions de 3 heures, il faut vraiment qu'il y ait des gens à plein temps. Donc là, la société en elle-même arrive à rémunérer ses salariés à plein temps. Et plus tard, les bénéfices qui sortiront de tout ça, et c'est pour ça que le fait que ça grossisse un peu plus, c'est important, c'est que l'idéal, ça serait de pouvoir réinvestir ces bénéfices justement dans des producteurs. Dans toute la France, en tout cas pouvoir se dire comme apiculteur, pour qui c'est encore un peu dur, qui en sortie de Covid a un petit souci pour récupérer 3-4 ruches, on puisse lui avancer ou en tout cas investir dans sa société et se dire nous on va mettre, je dis n'importe quoi, t'as besoin de 4000 euros pour pouvoir relancer cette activité et la développer, on va investir dans cette société-là et on va permettre à un agriculteur ou en tout cas un producteur de s'en sortir. C'est la deuxième étape qui est comment ces bénéfices peuvent servir l'intérêt d'autres personnes qui nous nourrissent ou qui en tout cas font des produits dont on se sert. En tout cas, il y a une dimension d'accompagnement social beaucoup plus grande. Je pense, et j'en ai pas vraiment parlé avec le fondateur de cette aventure, mais je pense que c'est ce qu'il avait au fond de lui, en fait. Et je pense qu'il avait vraiment envie d'avoir cette aventure sociale. C'est quelqu'un qui est très engagé. On l'a vu pendant le Covid aussi. Il y avait vraiment un service pour aller déposer les courses pour les personnes âgées. Même le fonctionnement pendant le Covid, on a bien vu comment ça fonctionnait à l'intérieur du supermarché. Donc, il y a vraiment une dimension sociale importante. Au-delà de la mécanique qui est très intéressante parce que c'est une vraie alternative de modèle. Et moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était plutôt ça. Mmh. C'était comment, par rapport à la grande distribution, des petites initiatives peuvent, au regard de grandes sociétés de la grande distribution, se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ils font ça. Tiens, c'est peut-être pas inintéressant. Et ça peut faire, c'est des petites initiatives qui peuvent faire bouger les choses. Après, elles sont plus si petites que ça maintenant, puisqu'entre la Louve et les grains de sel et d'autres initiatives qui doivent avoir un peu partout dans toute la France, ça devient une vraie réalité. Et comme c'est une réalité, elle interpelle. Je pense que ça a cette vertu-là, en tout cas.
Bah, je suis persuadé que les auditeurs de Fréquencier 97.9 se trouvent interpellés par ces démarches, cette démarche, on pourrait dire démarche citoyenne, c'est un peu des mots à la mode, où on a créé quelque chose de collectif, où les uns et les autres mettent main à la pâte, deviennent des actionnaires, et trouvent, bien selon, en fin de compte, et de plus, leur choix, les produits qui leur conviennent, qu'ils ont choisi, et on vient de l'entendre de la part d'Alex, même d'aller encore plus loin, faire que on va aider des gens à s'installer ou on va leur permettre de passer une étape pour qu'ils deviennent à part entière eh bien des producteurs pour grains de sel. Alors pour vous, Alex, d'être dans cette ambiance, vous l'avez un peu dit, mais on va aller un peu plus loin. Est-ce que c'est aussi le fait de mieux connaître les autres gens? Il est vrai que dans la grande distrib, lorsqu'on y va, lorsqu'on pousse le caddie, en gros, on connaît peu de gens, ou pour ainsi dire personne. Est-ce que là, en fin de compte, on n'a plus du tout la même attitude? Est-ce que le citoyen devient autre? Est-ce qu'il devient vraiment un acteur, quelqu'un qui vit dans une collectivité? On rappelle, c'est dans le 13e, donc il y a beaucoup de monde. Et là, qui devient quelqu'un qui... on se reconnaît, on s'entend, on se parle.
Oui, il y a un peu cette dimension-là. Alors, elle n'est pas caricaturale non plus. Mais on sent bien, en tout cas pour ma part, elle n'est pas poussée. Je connais pas tout le monde, mais quand on rentre dans le supermarché, tout le monde se dit bonjour. Il y a une certaine attention et effectivement, il y a un certain respect des uns des autres. Ce que je disais, c'est le fait que tu puisses te retrouver à la caisse avec les mêmes problèmes que quelqu'un d'autre qui n'arrive pas à trouver la référence de telle petite graine vendue en vrac ou de tel produit. Ça met une dimension comme ça, effectivement, plus simple. Personne ne fait la tête dans la queue. Si quelqu'un a beaucoup de produits, il n'a même pas besoin de poser la question. Naturellement, les gens vont dire, bah, c'est un peu l'état d'esprit. Mmh. Nous, là où ça a été vraiment très marquant, c'est vraiment au tout début du Covid. C'était une situation qui était très stressante pour tout le monde. Alors, peut-être avec une dimension encore un peu plus stressante en gros milieu urbain comme Paris, parce que on ne connaissait rien de cette maladie, on ne savait pas comment c'était contagieux. À l'époque, on mettait encore des gants. Donc, aller au supermarché avec un afflux de gens où justement l'attention n'était peut-être pas. Chacun ne faisait pas trop attention aux autres, c'était très stressant. Moi, je sais que je suis allé dans des magasins autres et j'étais très stressé. Et au grain de sel, y avait déjà un protocole puisque, comme on est sociétaire, on a accès au point froid, en tout cas aux cuisines. Donc, il y avait un protocole, on allait se laver les mains avant d'y aller, on mettait tous des masques, une espèce de respect comme ça, de parcours, comme tout le monde respecte. On avait une espèce de lieu où on pouvait à la fois sortir, ce qui était très agréable, sans être stressé parce que tout le monde est dans une espèce de bienveillance naturelle, simple, voilà. Et donc du coup, on avait cette relation-là et c'était un peu exacerbé au moment du Covid parce que on voyait bien la différence qu'il pouvait avoir ailleurs. Je reviens sur le début aussi sur la mécanique pour pas que les auditeurs trouvent ce lieu un peu excluant entre sociétaires qui sont que entre eux. Mécaniquement, pour être sociétaire, nous pour notre part et qui avons les moyens et enfin voilà, et pour la plupart des sociétaires, c'est 100 euros. Au départ, d'investissement pour pouvoir être sociétaire et donc du coup bénéficier de l'accès et de la mécanique. Mais pour les personnes qui n'ont pas cet argent-là, ça peut être 10 euros. Et pour les gens qui n'ont même pas les 10 euros, ça peut être gratuit. Voilà la mécanique d'entrée. Elle est déjà très ouverte.
Absolument.
Et voilà, donc ça permet... Le seul truc, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, le magasin est ouvert, les portes s'ouvrent, c'est juste qu'il y a un système de cartes à l'entrée, pour dire qu'on vient badger, ça nous permet de nous rappeler si on a des heures en retard, déjà, ou si on a... Voilà, ça permet de réguler ça, savoir qui est venu et gérer le flux. Et à la caisse, on ne peut payer aussi qu'en donnant son numéro de sociétaire ou en passant sa carte. Donc effectivement, si on venait de l'extérieur, on ne peut pas simplement rentrer, faire ses courses et ressortir. Mais très vite, il y a quelqu'un à l'accueil ou dans la caisse qui explique la mécanique pour une prochaine fois, ou en tout cas, c'est fait de façon assez bienveillante, voilà, pour grossir. Et l'histoire à raconter aussi, pour que les gens comprennent bien que cette mécanique-là fonctionne que si elle est limitée au simple sociétaire, sinon ce serait impossible à gérer. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait que cette bienveillance, en tout cas, se ressent et les échanges. Après, moi, j'ai une activité professionnelle un peu chargée. Ma femme fait beaucoup plus que moi des heures là-bas, donc vit un peu plus et serait peut-être plus à même de parler de cette dimension-là. Mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses qui se passent sur des échanges, sur des coups de main, sur un conseil, quelqu'un qui va chercher quelque chose. Il y a beaucoup d'annonces qui sont posées, il y a beaucoup d'intervenants, il y a des cours de yoga pour des personnes âgées ou pour des personnes, pour tout le monde, mais aussi pour des personnes un peu âgées. Il y a des initiatives qui se passent, il y a beaucoup de choses qui sont proposées en tout cas. Voilà. C'est une jolie plateforme aussi d'échange d'informations. Voilà.
Donc on est en train de construire, bon, je vais aller peut-être un peu loin, un autre monde. Parce que quand on entend ça, il est vrai que nous qui sommes plutôt du monde rural, enfin les auditeurs, auditrices et moi-même, on est un peu surpris de voir, d'entendre que oui, il se passe des choses, grain de sel, déjà 5 magasins, demain peut-être encore plus. Il y a une poussée vers... un autre regard du consommateur, quoi, en fin de compte. Parce que là, on n'est plus consommateur, là. On est acteur. En fin de compte, ce lieu-là, c'est son jardin de vie, quoi, un petit peu, non?
Alors, oui, c'est un peu ça, mais moi qui suis natif d'un milieu plutôt rural du côté de Saint-Gaudens, dans les Pyrénées, j'avais l'impression que pour moi, c'est pas complètement un autre monde. C'est un monde qui existe, hein, principalement dans les milieux ruraux ou en province, dans des coopératives, des marchés. Je retrouve des choses qui existent déjà, en fait, c'est beaucoup de gens. Et les gens qui sont là, la plupart ont juste trouvé un point, ça a canalisé un peu les envies des gens qui sont là, mais au fond des gens, c'est pas complètement surréaliste, c'est juste quelque chose de simple, qu'on n'avait pas à proximité pour pouvoir le faire, mais ou en tout cas personne n'avait lancé l'initiative, mais parce qu'on a les habitudes, parce qu'il n'y a pas l'offre, quand il faut aller faire des courses, nous, il n'y a pas des coopératives partout, elles sont souvent mal adaptées. On a des réponses qui sont bien manger égale soit manger cher, soit enfin en tout cas on n'a pas la facilité qu'on peut avoir en milieu rural, qui est d'avoir un accès à tout simplement à des agriculteurs qui vont vendre sur les marchés et qui on a le producteur en face. Alors c'est presque une dimension que j'aimerais encore plus avoir et qu'ils essayent de faire en faisant venir des producteurs, hein. Je pense que pour les auditeurs, ça doit leur paraître un peu particulier de se dire que les producteurs sont mis en avant, qu'on les fait venir et tout, puisque effectivement sur un marché, les gens qui produisent, on peut discuter avec eux, échanger sur leur savoir-faire, sur comment ils le font. Il y a cette interaction entre, c'est pas simplement acheter à manger, il y a aussi un peu s'intéresser à ce que tu manges et à comment c'est fait. Je crois qu'il y a un intérêt à l'artisanat, il y a un intérêt à l'agriculture, il y a un intérêt à toutes ces choses-là. La plupart des gens qu'on croit sont un peu dans cet esprit-là. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai connu, mais quand j'étais plus loin du milieu urbain. Voilà.
Donc, c'est un lieu où on a le sourire, quoi, car on sait que pour beaucoup de gens, le samedi, puisque c'est le cas dans nos zones, où on va à la ville pour aller à la grande distribution, et ça se passe soit le vendredi ou le samedi, on y va un peu avec la boule au ventre, quoi. Et on sait en plus que ça va faire gling-gling du côté de la carte bleue ou autre. Là, on sent dans tes propos, dans vos propos, Alex, que vraiment, oui, on affine le bien-être de l'humain, quoi. L'humain se trouve respecté, respectable et en envie d'être avec les autres.
Oui, c'est un peu ça, sans aller trop loin non plus, mais il y a cette bienveillance, on n'y va pas à reculons, c'est un passage qui n'est pas désagréable et sur la plupart du temps où on a un échange, tu te sors un peu léger parce que tu sens que c'est des bonnes vibes, il y a plutôt un bon esprit et c'est plutôt ça qui en ressort et c'est plutôt très agréable de se dire que les gens sont bienveillants les uns avec les autres. Ça part des petits détails, mais effectivement, quand tu sors de faire tes courses et que tout le monde a été cool et souriant et fait des petites blagues et on a pu échanger un peu, c'est une expérience complètement différente que de rentrer dans un grand supermarché en faisant la queue avec effectivement un peu la boule au ventre, une multiplication des produits. Il y a plein de choses aussi. Moi, j'ai une compagne qui est, et moi un petit peu aussi, attaché à l'écologie. La grande distribution, c'est pas une super image, enfin c'est plutôt pas une très bonne image du futur, quoi. On est dans une surconsommation, on est dans une consommation de produits qui sont pas forcément très très bien. On sait que les négociations avec les producteurs sur la grande distribution sont tyranniques, en tout cas sont tirées au maximum. On n'est pas du tout dans bien faire les choses au bon prix et dans une légèreté, même pour les gens qui produisent. Et c'est important de se dire que derrière, il y a des agriculteurs qui triment. Alors moi, je pense qu'il y a des agriculteurs qui aiment leur métier et qui veulent juste le faire et vendre leurs produits au bon prix. À certains moments, je pense que j'y pense pas tout le temps, mais à certains moments, quand on se pose la question, on aime bien aussi cette dimension-là et de se dire que, bah, on sait que quand on va au grain de sel, eh ben, cette dimension-là, elle est prise en compte et que les producteurs, tout le monde, la rémunération est assez équilibrée et tout le monde y trouve son compte et voilà, il y a un agriculteur qui continue à faire son métier qui est déjà suffisamment dur comme ça et sans être obligé de le vendre ses produits au rabais. Mmh. Et voilà, et bon, après c'est un peu en global sur une consommation de vie aussi, c'est-à-dire que bah du coup on fait un peu attention à tout derrière aussi, on essaie de pas trop jeter, on consomme des choses qui sont un peu plus frais, on a la chance d'avoir des produits bio pas trop chers, des légumes, des choses comme ça, donc on consomme un peu différemment, voilà. Bon, après nous on achète très peu, il y a très peu d'ailleurs de, il y en a hein, mais des plats déjà préparés, il y en a mais il y en a assez peu et nous on en consomme quasiment pas, mais en produits frais par contre il y a vraiment beaucoup de choix. Alors, des choix de saison, hein, ça on est comme tout le monde, hein, quand arrive l'hiver on va manger un peu plus de poireaux et de potirons et de citrouilles et de pommes de terre.
C'est la saison.
Mais voilà, c'est des produits de saison, mais on s'adapte, ça nous va. Mais en tout cas, même dans ces périodes-là, il y a une vraie diversité. Il y a des champignonnières top en Picardie, donc du coup il y a des super champignons. Je prends ça comme exemple. Les salades sont extraordinaires aussi. Enfin voilà, la roquette est avec goût de roquette. Il y a des choses aussi qui ont du goût. C'est aussi des produits de qualité, en fait. Le fait qu'ils aient un accès et qu'il y ait un échange. Parce que je pense que la plupart des sociétaires donnent toujours des tips en disant « Ah ben tiens, moi j'ai vu quelqu'un qui fait ça. » Et en fait, ils refusent jamais l'accès de rentrer en contact avec des producteurs. Ils échangent avec eux. Si les produits correspondent, ils les mettent. Si les gens les achètent, la mécanique est simple.
C'est quelque chose d'autre, autrement, c'est, vous savez, ce temps fort que vous trouvez sur Fréquencier 97.9, et à date d'aujourd'hui, eh bien, c'est un premier clin d'œil du côté de Grain de Sel, une autre approche d'être citoyen, d'être consommateur, d'être animateur, d'être partenaire, et j'en passe. Alex, on se retrouve la semaine prochaine, on se laisse pour l'instant, et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.
À la semaine prochaine. Bye bye.